et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on part dans un monde étrange, dans l'imaginaire d'une petite fille, au pays des véganes, et on rend hommage à un grand écrivain haïtien. C'est un sujet qui va vous faire réagir. Après avoir donné la parole aux antispécistes et végétariens dans cette émission plusieurs fois, voici un homme qui prend le parti des mangeurs de viande, avec une analyse poussée de notre système économique et alimentaire. Bonjour Paul Ariès.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous publiez « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser » et vous affirmez notamment que manger de la viande, raisonnablement, eh bien c'est pas si mal pour la planète.
Bah vous savez, si je suis anti-végan, c'est d'abord pour défendre le droit à l'alimentation pour 8 milliards d'humains. Et puis c'est également pour défendre le droit à la vie des animaux d'élevage, des animaux domestiques et même des animaux sauvages.
Donc c'est bon pour la planète de manger de la viande ou pas ?
Tout dépend de la viande. S'il s'agit d'une viande industrielle, sûrement ouais. Pas. Mais s'il s'agit effectivement d'une prairie avec ses vaches dessus, c'est extraordinaire à la fois pour les animaux, pour les paysans, pour les mangeurs et pour la terre.
Bien. Débat autour des véganes qui ont tout faux, selon Paul Ariès. Ce sera tout à l'heure. Nous rendrons hommage au grand écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, mort en 1961 à l'âge de 39 ans. Il reste une immense référence pour toute la littérature caribéenne. Témoignage depuis le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris avec Florence Alexis, Dany Laferrière, Louis-Philippe d'Alembert et Gaël Faye. Et puis nous sommes avec deux auteurs qui font l'actualité en librairie cette semaine, en Belgique et en France. Isabelle Ouéry et Muriel Barbery proposent deux romans qui poussent très loin l'imaginaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex comme chaque semaine avec nous. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France à Puteaux dans la librairie L'Amandier.
C'est ça.
Gros mangeur de viande.
Gros, non, mais de mieux en mieux, hein, comme dit Paul.
Bien, on verra ça tout à l'heure. On va avoir des messages, hein, je vous préviens.
Ouais, je crois.
Non, mais c'est sûr, donc calmez-vous, hein, ne vous jetez pas sur les réseaux sociaux tout de suite. Au Canada, on retrouve Josiane Nétourneau de la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Végétarienne Josiane.
Je l'ai déjà été en
ça,
fait.
Ça, bah voyez.
Je l'ai déjà été, mais je ne le suis plus.
Bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez, vous, la Belgique. Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Et enfin, en Suisse, c'est Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève, qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme ?
Ça va, oui, oui.
Ouais, ça a l'air. Merci d'être avec nous. Tous les quatre, vous interviendrez, bien sûr, tout au long de cette émission. Et bonjour Muriel Barbery.
Bonjour Emmanuel.
On commence toujours cette émission avec un auteur et une histoire. Depuis L'élégance du hérisson, qui a été un immense succès en librairie et au cinéma, vous vous intéressez à la vie des elfes. Quel rapport personnel entretenez-vous avec ces créatures, Muriel ?
Alors, c'est un rapport japonais. Lorsque j'essayais de comprendre comment on pouvait rendre compte de l'extraordinaire beauté et du sublime, presque inhumain, des jardins de Kyoto,
oui.
Je ne trouvais pas de réponse. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était probablement parce qu'ils avaient été conçus, dessinés et réalisés par des elfes.
D'accord. Par des elfes.
Et par des elfes, oui. Je ne voyais pas qu'ils
puissent... Ça, c'est dans votre imagination. Enfin...
Mais qui sait ?
Ah oui, c'est ça. Bon, ça va être compliqué, cet entretien. Après la vie des elfes, en tout cas, vous publiez Un étrange pays aux éditions Gallimard. Un étrange livre, hein, Muriel, qui joue avec les codes de l'héroïque fantasy. Un roman qui s'autorise toutes les libertés, toutes, au risque de perdre parfois le lecteur. Il est question, par exemple, depuis la nuit des temps, du monde des brumes. Qu'est-ce que c'est le monde des brumes ?
Alors, ma fréquentation du monde asiatique, puisque j'ai vécu 2 ans au Japon et parcouru une bonne partie de l'Asie grâce à l'élégance du hérisson, m'a fait beaucoup aimer tous les paysages de brume, aussi bien les paysages réels que ceux qui sont magnifiquement transcrits dans la peinture chinoise. Et de là est née l'idée que si un jour j'inventais un monde d'elfes...
Ce serait le monde des brumes.
Et oui, les brumes y joueraient un rôle fondamental.
Et c'est là-bas que les elfes vivent, donc.
Alors, les elfes vivent dans les brumes, communiquent grâce aux brumes, naviguent même sur la brume, dans un monde où elles permettent aussi toutes les transformations, puisque les pierres deviennent liquides, les végétaux se font
Tout est flammes. Possible.
Tout est possible.
Et il y aurait, selon votre roman, des elfes autour de nous. qui font le voyage régulièrement entre les brumes et la terre. Comme votre personnage Pétrus, qui va apprendre, lui, à connaître le monde des hommes, c'est un elfe. Et ce qui va le fasciner dans notre monde, c'est la littérature et le vin.
Oui, alors Pétrus est un elfe quand même assez atypique, puisqu'il est très décalé dans son propre monde, un monde sublime où tout le monde fait de la calligraphie, des poteries, des cérémonies de thé, et lui, ça l'ennuie à périr. Et lorsque l'aventure le jette à travers un pont invisible sur la terre des humains, ce qu'il découvre, c'est que ce qu'il aime chez les humains, c'est leur capacité à inventer des histoires, et encore plus quand ils ont bu un petit verre.
Oui, c'est ça. Alors, vous donnez des clés d'ailleurs à la fin du livre, sans tout dévoiler, Muriel, mais en même temps, l'histoire est très compliquée. Hein, donc,
ah bon ?
Ce serait différent. Ah oui. oui, très compliqué.
Oh, non, moi, je trouve pas.
Non, vous trouvez pas?
Ben, non.
Il y a plein de choses, plein de personnages, plein de mondes, plein de conflits, plein de guerres, enfin.
Non, il y a une seule guerre, il y a quelques personnages.
Une seule guerre? Non.
Il y a une très grande guerre, effectivement.
Oui, avec plusieurs conflits à
l'intérieur.
Elle
a beaucoup de péripéties.
Alors, vous précisez que le vin est la meilleure métaphore des fantômes qui nous hantent. Vous écrivez « La vigne et les morts participent ainsi au grand récit du monde ».
Oui. Oui, je crois que nous héritons de nos ancêtres, au sens large et au sens restreint, d'histoires que nous transmettons à notre tour, et que la vigne est une métaphore merveilleuse de cette réalité, parce qu'elle pousse dans les profondeurs de la terre, ensuite s'élève vers le ciel et le soleil, en restituant l'histoire des pierres sur lesquelles elle a poussé, des vents qui l'ont balayée.
Bon, on va écouter la BO du roman. Vous avez choisi Paco de Lucia. Pour illustrer votre livre, selon vous, c'est la musique qui pourrait être la musique du film, finalement, si on en faisait un film.
Alors, pas tout à fait, c'est la musique avec laquelle j'écris
mes textes. Bon, on écoute et vous nous expliquez.
J'explique.
Allons-y. Magnifique musique de Paco de Lucia, qui accompagne donc votre lecture, écriture.
Oui, mon écriture, parce que j'écris très souvent en musique.
Oui.
En revanche, je relis sans musique parce qu'elle a tendance à magnifier le texte et à masquer tous les problèmes et tous les défauts.
Oui, oui.
Mais j'aime beaucoup avoir une musique avec un rythme qui correspond à la musique des mots que j'ai envie de coucher sur le papier.
Alors, je vais lire un petit extrait sur cette musique, on va voir si ça magnifie justement le texte. Parce que vous écrivez que la grande différence entre les elfes et les humains, c'est leur incapacité à être aussi des animaux. Vous dites « Les animaux sont hantés par l'idée de leur propre divinité. L'appétit de guerre leur vient de ce qu'ils ont renié. Les hommes ne reconnaissent pas l'unité des vivants et se considèrent au-dessus des autres règnes. » C'est notamment ce que disent les véganes, dont on parlait tout à l'heure avec Paul Arias.
Voilà pourquoi.
C'est ça ?
Oui, oui. Non, alors, c'est, les elfes de mon monde n'ont rien à voir avec les elfes de l'héroïque fantasy. Ils sont très singuliers, puisque mon idée de départ était qu'ils soient à la fois humains et animaux.
Mais qu'est-ce que ça apporte, ça, par rapport aux hommes ?
Une connivence entre tous les vivants.
Avec la nature, un contact plus fort avec la nature.
Avec la nature, dont les vivants sont une part.
On va laisser la place à nos libraires. Deux ont lu votre roman. Muriel Barbery, le Canada et la Belgique. Josiane Letourneau, au Canada, avez-vous été séduite?
Ben, en fait, comment je l'exprimerais, c'est qu'un étrange pays pour moi, ce roman-là, c'est une histoire qui existe là où je ne l'attendais pas. C'est quelque chose comme un territoire de poésie et de guerre décalée qui a exigé de moi que je persiste tout en acceptant que je ne comprendrais pas tout en temps réel dans ma lecture, en fait. Ben, c'est définitivement un roman vaste, un roman ambitieux, original, mais qui exige beaucoup d'abandon de la part du lecteur et qui, dans la forme, reste quand même un parfait hybride entre le roman fantastique et le roman uchronique.
Elle a l'air d'accord, Muriel.
En partie, oui.
Déborah Damblon, la licorne que vous êtes en Belgique, a dû certainement aimer ce monde étrange.
Comment vous avez deviné, Emmanuel? Mais d'abord, avant tout, moi, je voudrais saluer qu'en ces temps de surproduction, eh bien, j'apprécie que vous soyez une romancière rare, Madame Barbery. Et je salue cette force à oser vous laisser presque oublier. Et comme ça, on vous voit réapparaître avec un roman qu'on n'attend plus. Et effectivement, comme dit Emmanuel, j'ai aimé vos deux mondes. Bon, il faut avouer qu'avec moi, quelques elfes, et je suis conquise. Hein. Mais vous le faites vraiment avec souffle. Vous le faites avec beaucoup de romanesque, avec énormément d'intelligence. Et vraiment, je trouve que c'est une réussite qui, comme l'a dit Josiane, nous emmène ailleurs de ce qu'on a l'habitude de lire.
Voilà Muriel, les elfes vivent dans un monde de paix et de poésie, mais chez eux il y a aussi des rebelles qui veulent la guerre pour exister et qui rejettent l'autre, qui ont peur des différences. Tous les humains sont pour certains elfes des êtres qui font peur, des étrangers qu'il faut laisser dans leur monde. Là aussi il y a métaphore Muriel Barbery.
Oui, alors la plus grande métaphore du roman je crois c'est celle des ponts entre ces deux mondes,
oui.
Puisque tout le monde, il y a un pont qui sépare le monde des humains et le monde des brumes, qui est lui-même noyé de brumes, et certains dans le monde des elfes voudraient que ce pont cesse d'exister, que les elfes ne pactisent plus avec les humains, tandis que d'autres sont persuadés que la solution à la guerre, puisqu'il y a une grande guerre qui fait rage, c'est justement les passerelles.
Oui. Donc on est là, dans notre monde actuel,
mais
finalement.
La littérature ne fait que ça.
La clé de l'alliance, en tout cas Muriel, c'est une boisson. Le thé pour les elfes, et on en parlait tout à l'heure, le vin pour les humains. Les sensations que ces boissons procurent permettent de voir d'autres mondes. Finalement, elfes et humains ont besoin de substances produites par la nature, vous précisez, vos personnages le précisent. Ils ont besoin de ça pour s'apaiser, pour se réconcilier. On a besoin de boire.
Oui, ou de fiction.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez ou vous écrivez?
Je fais tout. Oui. je suis polyvalente.
Ouais.
En rentrant en France après 2 ans au Japon, je me suis rendu compte à quel point le vin français m'avait manqué. Et pourtant, ouais. Dieu sait si j'ai aimé les cérémonies de thé au Japon, à Taïwan, en Chine, si j'ai été fascinée par ce monde à la fois simple et extrêmement complexe. Mais le plaisir maintenant d'habiter dans une région vinicole est intense.
Ouais, le Japon vous a transformé, Muriel Barbery. Parce qu'entre l'élégance du hérisson, un conte avec une petite fille comme ça, adorable, qui vivait le monde des adultes avec ses yeux d'enfant, enfant, c'était très concret, très réaliste, très beau aussi. Et là, les elfes, 2 fois, hein. Vous arrêtez ou...
Alors, en fait...
Parce que c'est complètement différent, on ne vous attendait pas sur ce terrain-là.
Non, et en fait, je pense même que les deux romans, La vie des elfes et Un étrange pays, sont eux-mêmes extrêmement différents. Mais ça, ça, c'est pas forcément les voyages, c'est un trait de ma personnalité, parce que j'ai vraiment besoin de me renouveler pour pouvoir ressentir le désir.
Et le prochain, ce sera sur les elfes?
Non, ce sera très différent.
D'accord. Bon, on vous attend, en tout cas. Merci beaucoup,
merci
Muriel Barbery.
Merci
de venir dans la librairie francophone. Quand vous sortez un nouveau roman, vous êtes assez rare dans les médias et on a la chance de vous accueillir à chaque parution. La vie des elfes, vous en parliez ici déjà en 2015 et 4 ans plus tard, Un étrange pays est publié toujours chez Gallimard. Merci Muriel.
Merci.
Vous allez rester avec nous car nous allons rester dans le conte avec Isabelle Houéry qui elle aussi pousse l'imaginaire assez loin mais dans un autre genre avec une petite fille qui ne grandit plus en raison des malheurs qui frappent son entourage. Un livre poignant qui nous divise pourtant dans l'équipe, vous allez voir. Avant cela, voici la chanteuse franco-algérienne Djoura avec la complicité de Catherine Ringer. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
اشضح الطاوس ما تسعيد القول تسود اشضح الطاوس اشضح الطاوس ذوري رمى القيطيس اشضح الطاوس اشضح الطاوس اشضح الطاوس ذوري رمى القيطيس اشضح الطاوس
طاوس اللي بيان دانسي سيت دانس كينو بيان دي مونتان دجرجرا اوكي
اشضح الطاووس اشضح الطاووس اقلع محمى فقاعات محمى فقاعات اشضح اشضح الطاووس اشضح الطاووس دورار ما غرقيقات اشضح الطاووس
إيش راح تطوس إيش راح تطوس أقلق نحمة فقعت نحمة فقعت إيش راح تطوس إيش راح تطوس دير النار قيقز إيش راح تطوس إيش راح تطوس إيش راح تطوس أقلق نحمة فقعت نحمة فقعت إيش راح تطوس إيش راح تطوس دير النار قيقز إيش راح تطوس.
Djoura et Catherine Ringer avec Taouès sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Les coups de gueule et les coups de cœur avec nos libraires. Avant de parler du roman étrange d'Isabelle Houéry, on commence avec un coup de gueule en France, Thomas Hausser.
Eh ben oui, Manuel, un coup de gueule. En fait, il s'agit du manque d'imagination parfois qu'ont les éditeurs lorsqu'il s'agit d'illustrer un livre. Alors, c'est moins parlant à la radio, mais bon, les auditeurs pourront les vérifier en librairie.
Oui.
Du coup, il s'agit du dernier livre de Michel Onfray. Donc, le titre,
Sagesse.
C'est Sagesse.
Ouais.
Il a exactement la même couverture que celui qui était paru quelques années auparavant.
Mais non.
Eh si. La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Un autre Michel.
C'est pas possible.
Donc, on imagine. Alors.
Mais c'est la collection poche de Houellebecq, là.
Alors, c'est la collection poche, mais c'était quand même chez le même éditeur. C'est
la même
chez Flammarion aussi. Donc alors, moi je veux bien pour les petites maisons d'édition qui aient des problèmes de graphisme, etc. Là quand même, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un effort. Surtout que c'est un peu bizarre, après en rayon, on se dit mais c'est lequel, voilà. Donc c'est drôle, mais c'est quand même un petit coup de gueule. Ouais.
Fissure dans une coulée de lave, c'est le titre de cette photographie, sur l'île de La Réunion, tiens.
Ah oui,
en 1990, et c'est la même photo effectivement.
Pareil.
Chez Onfray, chez Houellebecq, c'est n'importe quoi. Merci Thomas. En Belgique, un coup de gueule qui découle d'un coup de cœur. Bref, une triste nouvelle, Déborah Damblon.
Oui, une très triste nouvelle, Emmanuel. Vous savez, on dit que quand un journal disparaît, c'est un peu de démocratie qui meurt. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand c'est un éditeur, une éditrice plutôt, qui disparaît? Alors chez nous, c'est Luce Wilquin qui vient de jeter l'éponge. Après 31 ans de découverte, de partage et plus de 500 titres publiés. Et ça, eh bien, simplement faute de repreneurs.
Ouais.
Et c'est infiniment, infiniment triste. C'est une part de littérature, c'est une part de rêve qui disparaissent. Alors juste, merci Luce. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tous ces livres qui vont rester.
Grande éditrice, hein, Luce Wilquin, qui a révélé de nombreux auteurs qui ont eu des prix par la suite à travers toute la francophonie. On salue effectivement les éditions Luce Wilquin. Merci Déborah, un vrai coup de cœur dans le rayon des bandes dessinées. Avec vous, Josiane Letourneau au Québec.
Ben oui, en fait, pour la BD Pénis de table de Cookie Calcaire chez Mécanique Générale.
Pénis
à la base,
de table.
Une... Pénis de table, oui, comme du tennis de table.
Oui, on a compris, on a compris.
Mais quand vous allez voir la BD, vous allez comprendre la référence.
Ah bah oui.
Elle est née d'un blog, cette BD-là, comme nous l'apprend la préface élogieuse de la sexologue Estelle Cazelet.
Ouais.
En fait, c'est une BD sympathique, graphiquement intéressante, mais surtout pertinente, parce qu'elle confronte beaucoup d'idées reçues sur la sexualité masculine et qu'elle nous démontre, sans pour autant manquer d'humour, que nous ne parlons que trop rarement de manière assumée et authentique de sexualité. Dans la vraie vie, comme dans la fiction, on est un peu pris dans ce qu'on pense pouvoir dire ou pas. Finalement, c'est du beau travail de BDiste qui a bien su utiliser la science, le témoignage et l'humour.
Bien. Pénis de table, donc, de Cookie Calcaire aux éditions Mécanique Générale. C'est bien ça?
Oui!
Muriel Barbery n'en peut plus. Vous lui enverrez ce livre magnifique, hein?
Ça va me faire plaisir!
Ah, bah écoutez! Merci beaucoup, Josiane. On termine avec un coup de gueule en Suisse contre Roger Federer, l'icône du tennis mondial, Claire Renaud.
Donc, vous connaissez notre héros national.
Mais oui, bah, quand même, oui. Je m'associe même.
Oui, eh ben, moi, je vous parle du quatrième livre qui sort cette année. Imaginez, qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Alors, on fait des jeux de mots sur le titre. Là, c'est Federer Forever, mais il y a eu Federesque. Et puis, on ajoute à tout bout de champ que c'est une légende, au cas où les Suisses n'avaient toujours pas compris. Et en plus, moi, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes photos. Mais non, non, non. On vous dira que ces photos sont extraordinaires, qu'on a pu vivre avec Federer dans son intimité. Bref, moi, je vous promets une chose. S'il gagne l'Open d'Australie, je vais publier un ouvrage qui s'appellera Federer for Atmosphère. Parole de Claire.
Bon, en tout cas, c'est contre le livre, hein, un nouveau livre sur Roger Federer. Je sais qu'une partie de sa famille écoute la librairie francophone. On les salue et Roger est toujours le bienvenu dans cette émission s'il veut défendre un autre livre, par exemple. On vous appellera Claire.
D'accord.
Bon, Federer Forever, c'est quand même aux éditions Favre. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Bonjour Isabelle Wehry.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Une librairie très étrange aujourd'hui avec votre roman et celui de Muriel Barbery. On voulait vous proposer une grande séquence comme ça sur les mondes imaginaires. Et avec votre livre Poney Flottant, qui fait beaucoup parler de lui en Belgique en ce moment, on est servi. Une femme de 70 ans raconte sa vie. Elle est dans le coma. Elle perçoit des choses autour d'elle, mais ne peut plus bouger. Alors, elle va écrire le récit de sa vie avec sa mémoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Lui est arrivé, bêtement, elle a participé aux 20 km de Bruxelles et elle a vu passer le roi en short Adidas. Et il y a eu un mouvement de foule et voilà, elle est tombée dans le coma.
Et ça a été fatal.
Bon,
la construction.
C'est un prétexte.
Oui, c'est un prétexte, oui, j'imagine. La construction et le style sont très particuliers, Isabelle, parce que vous jouez aussi bien avec la tristesse qu'avec l'humour. Et il y a cette petite fille, Sweetie, qui affronte le monde des adultes de façon précoce et caustique, mais elle va vivre des drames terribles avec ce petit garçon qu'elle rencontre à l'hôpital, qui a 10 ans, qui va mourir d'un cancer.
Oui.
Elle échange avec lui, ils en discutent tous les deux et c'est vraiment très dur comme scène.
C'est une scène importante du roman. C'est une espèce de parcours initiatique d'une jeune enfant de 10 ans qui découvre en effet le rapport à la mort, le rapport à l'existence, à tout ce qui fait de nous des êtres humains, l'amour, le désir, la nourriture, etc. Donc elle a cette scène avec ce jeune cancéreux, une espèce de scène très cash comme ça,
face à face. On est au bord des larmes quand on lit ça, et ce n'est pas fini, Isabelle.
C'est vrai.
Parce que vous en rajoutez une couche. Quelques pages plus loin, il y a son grand-père, qu'elle aime par-dessus tout, profondément, qui va lui dire qu'il lui reste 4 semaines à vivre. Un cancer fulgurant, là aussi, lui confie vouloir se faire euthanasier dans une semaine. Écoutez ça quand même, vous décrivez un décompte de cette petite fille de 10h à 11h. La piqûre létale, c'est pour 11h, donc elle reste à la maison, le grand-père s'en va, on sait qu'il va mourir. Il y a le décompte de 10h à 11h. Moi, franchement, les 3 pages, j'ai pas pu les lire. Je les ai lues du bout des yeux, si je peux dire, parce que c'était trop dur.
Ah oui, à ce point.
Pourquoi nous infliger ça, Isabelle Wehry ?
Pourquoi vous
infligez ça ?
Mais ce sont des situations qui existent. Il y a des gens qui se font euthanasier et qui, à 10h du matin, n'existent plus. Voilà. Mais donc, c'est dans le parcours de cette jeune enfant. Mais il y a plein de choses très joyeuses dans ce roman. Et j'essaie néanmoins de parler de choses très, très graves, mais avec une forme d'énergie vitale, je dirais.
Et de la douceur.
It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown.
Cette musique, qui selon votre personnage fait le lien entre la vie et la mort, établit un pont entre le réel et le rêve. David Bowie, Life on Mars, que vous citez dans le livre.
Tout à fait. J'étais en train d'écrire le roman quand David Bowie est décédé. Et c'est un de mes idoles. C'est quelqu'un qui m'a vraiment donné le goût des pratiques artistiques. Voilà. Puis c'est quelqu'un d'androgyne, c'est une personnalité vraiment intéressante qui a créé des choses.
On est entre rêve et réalité dans ce livre. C'est un conte, mais pas un récit autobiographique. Heureusement, on aurait aimé plus de légèreté, Isabelle Wehry. On va voir le point de vue de nos libraires. Il y en a deux, comme avec Muriel Barbery, qui ont lu votre livre. La Suisse et la France. On commence par qui, Isabelle ?
On commence par la France.
Thomas Hosser, c'est à vous.
Alors, Isabelle, voilà un roman qui ne laissera pas indifférent. Il y a un côté punk dans ce texte qui, moi, à la fois m'a séduit, notamment par votre langue étonnamment vivante, mais aussi qui m'a un peu trop secoué par moments. Bon, en tant que libraire, moi j'ai envie un petit peu de préserver ceux qui chercheraient un texte peut-être un peu moins étrange et un peu moins trash. Mais aussi, j'ai quand même terriblement envie de faire découvrir votre roman et surtout votre voix vraiment singulière.
Mais c'est vrai que c'est antagoniste. On sort de là avec un sentiment un peu... C'est compliqué, Isabelle.
C'est compliqué.
La Suisse, Claire Renaud, qu'en pensez-vous ?
Alors moi j'ai trouvé que c'était un conte complètement déjanté et qui éveille en tout cas chez moi les rêves les plus fous. et qui m'a surtout emportée ailleurs. Et rien que pour ça, je vous remercie pour cette lecture. Moi, je ne suis pas pareille avant cette lecture et après. Figurez-vous, Emmanuel, que je voulais carrément fermer la librairie hier et puis faire, je sais pas, partir en voyage, faire une folie, quoi.
Ah ouais. Non, mais elle est dangereuse, Isabelle.
Et puis, j'ai trouvé le style, moi, complètement incroyable. C'est un mélange de sensualité, de poésie et très cru avec tout ça.
Oui, oui.
Enfin, moi, j'ai adoré, voilà.
Merci, bon. Vous me faites plaisir.
Mais... C'est vrai que c'est très cru, Isabelle Wairie.
Mais...
Cette petite fille a des désirs sexuels à un moment, franchement, c'est limite.
C'est limite. C'est limite quoi?
C'est limite,
quoi
elle a 11 ans.
Mais oui,
et
mais...
il y a des choses que je peux même pas raconter à l'antenne, mais tellement c'est trash pas, et c'est pornographique.
Mais je pense que les jeunes enfants ont aussi des désirs assez fous. Je pense que ça fait partie du développement de l'être humain.
Ah ouais.
Mais oui.
Vous avez eu des désirs fous en étant, vous en souvenez, vous?
Je ne vous raconterai pas.
Ah ouais. Muriel, un commentaire?
Et sur quoi? Sur la sexualité des enfants?
La vôtre.
Je crois, non, il n'y a aucune chance. Non, je crois que Freud disait que les enfants étaient des pervers polymorphes.
Oui, oui, c'est vrai.
Je vous laisse à cette méditation.
Pas mal. Ouais, Sweetie qui va arrêter de grandir, Isabelle Wairie, de 1m51, elle va passer même à 1m49.
Oui,
et elle
oui.
s'arrêtera là. 1m49, il faut savoir que c'est la taille au garrot d'un poney.
C'est
un
ça.
Poney ferré. Parce que sinon, c'est à 1m48 sans les fers. Et au-delà, ça devient un cheval. Enfin, c'est classé comme un cheval. Et comme elle fait 1m49, ferré, on va dire, avec des chaussures, donc, on la traite de poney.
C'est ça. C'est ça, donc ce qui la rend
dingue.
Tout
le reste de sa vie.
Parce qu'elle, elle souhaiterait avoir un cheval, elle souhaiterait être conquérante d'un royaume avec un vrai cheval. Donc, de se faire appeler poney, ça la rend dingue. Donc, elle va se venger.
Oui.
Oui.
Face à cette nature, finalement toute puissante.
La nature, oui, qui est très présente dans le roman.
Voilà, elle lui enlève son grand-père, elle va lui enlever ce gamin de 10 ans.
Oui.
Voilà, et elle dit, avec mon grand-père, on ne croit pas en Dieu, on croit en la puissance de la nature.
Tout à fait, mais ça se passe dans une ferme, et donc dans un espace qui est complètement à la merci des caprices de la nature. Mmh. Une ferme, on le sait, ça se fait en fonction des saisons, des pluies, des dégels.
Et c'est dur, la vie à la ferme.
C'est très dur.
Il y a la vie et la mort aussi.
Il y a la vie, la mort, les animaux naissent, les animaux mangent, les animaux copulent.
Se font manger aussi.
Se font manger, n'est-ce pas,
Polariès. N'est-ce pas, Polariès.
Donc c'est une vie très intense, presque shakespearienne, je dirais.
Merci beaucoup Isabelle Wairie. Votre nouveau roman Poney flottant est paru aux éditions belges On Lit. Formidable maison d'édition. Merci Isabelle d'être venue dans la librairie francophone, on vous a accueilli avec plaisir.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup. Polariès, justement, on va parler de la viande avec les véganes, les mangeurs de viande qui il faut déculpabiliser, selon vous. Vous mangez de la viande, Isabelle Wairie, oui?
Je ne mange que de la viande biologique élevée.
Très bien.
De manière.
Et puis un hommage au regretté Jacques-Stéphane Alexis tout à l'heure, avec Gaël Faye et Dany Laferrière notamment, dans un grand reportage au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Et voici justement Gaël Faye, avec son nouveau titre en duo avec la brésilienne Flavia Coelho. Bonne journée ou bonne soirée à travers le monde.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil, faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da China ou de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé.
j'ai la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse où sont passés les temps sereins où rien ne portait à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Gaël Faye avec Flavia Coelho, balade brésilienne.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Paul Ariès est dans votre librairie cette semaine pour un livre qui dénonce le véganisme avec ce titre à rallonge, Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, paru chez Larousse. Paul Ariès, pourquoi, comme vous l'écrivez en sous-titre sur la couverture de votre livre, les véganes ont-ils tout faux?
Bah, les végans, c'est 4 à 5...
Ah, vous dites végan, vous, déjà.
Oui, je francise.
Ah, pardon, d'accord.
C'est
4
à 5% aujourd'hui, effectivement, de la population, oui. Mais presque 100% de notre imaginaire alimentaire. Montrer qu'effectivement, les végans ont tout faux. C'est-à-dire que l'élevage n'est pas responsable de la faim dans le monde, l'élevage n'est pas responsable de la dégradation du climat, ni de la crise sur l'eau potable.
Ouais, vous écrivez, les végans, donc, ont non seulement tout faux par rapport à leurs belles déclarations généreuses, mais ils sont bien les idiots utiles du capitalisme productiviste.
Mais oui, parce que si vous voulez supprimer l'élevage, donc le fumier animal, la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier, c'est d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit la terre, tout ce qui détruit l'humus.
La fausse viande est plus rentable, c'est ce que vous expliquez. Et vous dites qu'il y a des entreprises, des multinationales qui sont soutenues par les rois du capitalisme, comme Bill Gates par exemple, qui soutiennent justement la fausse viande et la viande végétale parce que il y a un business derrière.
Bah, il y a un accord qui a été conclu entre le lobby de la viande et le lobby des céréales autour effectivement d'un consortium qui pèse 2,2 billions, je dis bien 2,2 billions de milliards, pour tout simplement supprimer la vraie viande, le vrai fromage, et imposer ces fausses viandes réalisées à partir de cellules souches. Ouais. C'est-à-dire que globalement, la conception qui était celle de l'alimentation depuis quelques millions d'années, il faudrait tout simplement faire table rase.
Et c'est plus rentable. C'est le produit rêvé, parce que pour le stocker, pour le stabiliser, comme on dit, donc pour le conserver, ça permet plus de facilité.
Alors c'est beaucoup plus rentable parce qu'on voit très bien que ce système productiviste, l'élevage industriel, le taux de perte c'est de 18 à 40%. La maladie de la vache folle, c'est été plus de 1000 milliards de dollars. Donc on a essayé d'imposer la viande clonée, ça n'a pas marché, heureusement, et on veut développer aujourd'hui ce système des fausses viandes.
Alors vous les traitez de nazillons quand même, les végans, vous allez très loin.
Ah non, c'est eux qui traitent effectivement les mangeurs de viande
de
nazis.
Vous dites les végans sont des nazillons, il y a beaucoup de nazillons qui se sont reconvertis vers le véganisme, et vous les insultez un petit peu.
Ce que je montre, c'est que le végétarisme a été une idéologie bonne à tout faire dans l'histoire.
C'est-à-dire
a pu porter effectivement le meilleur, l'encyclopédie de Diderot. On disait on va devenir effectivement végétarien parce que si on s'habitue à tuer des animaux, on pourra plus facilement tuer des humains. Malheureusement, cette illusion, on sait qu'elle est folle, fausse. Mais dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, je dirais que les puissants ont toujours voulu empêcher au peuple de manger de la viande.
Comme et à la fin du 19e, par exemple, vous citez les frères Kellogg's.
C'est effectivement ce mixte entre un courant religieux, Kellogg's, et puis la grande industrie.
Kellogg, les frères, donc, qui ont créé les céréales, on connaît la marque aujourd'hui.
Et qui ont reformaté notre façon de manger.
Exactement, et qui militaient, justement, tous les deux, pour arrêter de manger de la viande. Ils allaient même plus loin en disant qu'il fallait limiter les rapports sexuels à un seul rapport par mois. Alors, vous expliquez, Paul Ariès, dans ce livre, plein de choses, notamment que la Terre, dans la Terre, il y a plein d'insectes. Environ 80%, je crois, de la population animale se retrouve dans la Terre. Et si on va vers le végétarisme, si on évite de manger des animaux, mais qu'on consomme encore plus de végétaux, il y a un danger pour ces animaux-là. Donc, les végans et les végétariens sont aussi des assassins.
Bah, on sait très bien que l'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Mais ce ne sont pas les mêmes. Tout jardinier sait très bien qu'il faut éliminer les limaces pour pouvoir manger des laitues, qu'il faut éliminer les doryphores pour pouvoir manger des pommes de terre. Mais il n'y a pas que ça. Les végans conséquents reconnaissent que la prédation humaine, c'est-à-dire l'alimentation carnée, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'histoire de la prédation. Oui, oui. Et donc ce qu'ils proposent, c'est tout simplement de supprimer tous les prédateurs. C'est-à-dire en modifiant génétiquement les espèces animales ou en les éradiquant. Eh bien moi, si je suis anti-végan, c'est bien effectivement parce que je veux défendre cette biodiversité animale, et c'est bien parce que je considère qu'il va falloir non pas se prendre pour des dieux tout-puissants, vouloir reformater le monde, mais établir des relations nouvelles avec les animaux.
Que dites-vous à ceux qui sont écœurés par la viande? Il y a plein de jeunes aujourd'hui, des adolescents même, qui décident de ne plus manger de viande par écœurement. Parce que ce qu'ils voient à la télévision, quand ils voient la maltraitance animale notamment, quand ils voient toutes les crises sanitaires, ça les dégoûte et ils arrêtent de manger de la viande. Qu'est-ce que vous leur dites à ces végans ou à ces végétariens-là?
Mais les végétariens ou les végétaliens qui le font par choix philosophique et religieux, je dirais libre à eux, et tant mieux.
Là, c'est pas religieux, c'est pas philosophique.
Non, mais même par dégoût.
C'est un rejet. Oui.
Ce qui, à mes yeux, est contestable, c'est l'idéologie antispéciste qui considère qu'il faudrait éradiquer totalement l'élevage. Et puis, je vais plus loin. Cette idéologie antispéciste, elle a son gourou, Peter Singer,
oui, qui est
considéré
fou,
comme le philosophe le plus efficace de notre temps. Et qu'est-ce que nous dit Peter Singer?
Des choses
Il
incroyables.
Il nous dit qu'un jeune chiot valide serait plus digne d'intérêt qu'un grand handicapé, qu'un jeune nourrisson ou qu'un vieillard sénile. Eh bien moi, si je suis anti-végan, c'est avant tout pour défendre l'unité du genre humain.
On va donner la parole à nos libraires, Paul Ariès, avec Déborah Damblon qui est en Belgique. Déborah, à vous d'ouvrir le débat.
À moi d'ouvrir le débat, Emmanuel, mais quelle responsabilité. Enfin bon, c'est pas que j'aime tellement la viande, mais moi j'aime les livres qui aident à penser. Et puis jusqu'ici, je restais impressionnée, vous savez, presque mal à l'aise, avec un peu un brin de honte devant le courage, les prises de position, le militantisme de tous ces végétariens, de tous ces véganes. Alors, comme si manger de la viande une fois de temps en temps, même de la viande bio, même de la viande élevée avec éthique, ben ça faisait de moi quelqu'un de moche. Eh ben, me voilà maintenant, grâce à vous, monsieur Ariès, avec des arguments à leur opposer. Je vais pouvoir continuer à manger de temps en temps mon petit poulet rôti et puis à aimer mes chats sans croire que je suis une criminelle incohérente.
Mais parce que vous dites que les végans disent qu'il faut éliminer les prédateurs, donc comme un chat est un prédateur, bah, vous allez loin quand
les
même.
Végans, tous les végans souhaitent.
Moi, j'ai pas entendu de
végans tout...
dire ça, hein, vraiment.
Ah si, si, je reproduis dans l'ouvrage des tonnes de citations.
Oui, mais
tous les végans,
tout le monde peut dire
souhaitent...
n'importe quoi.
Ah mais ce sont des penseurs, je dirais, ce sont des universitaires. Ouais. Tous les végans souhaitent éliminer les animaux d'élevage, certains souhaitent éliminer aussi les animaux domestiques, et d'autres souhaitent éliminer, parce qu'ils souffriraient trop dans la nature, les animaux sauvages.
Bien, bon, ça n'engage que vous. Thomas Auxerre pour la France, qu'en pensez-vous?
Alors bah moi j'ai trouvé votre essai vraiment très intéressant, il m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé votre ton qui est offensif, et puis bah vous laissez vraiment rien de côté. C'est un vrai manifeste politique et philosophique raisonnable qui donne surtout envie de mieux manger. Enfin nous on vous conseillera vraiment très fortement la librairie.
Oui c'est vrai qu'il ose tout parce qu'il a même essayé, vous avez essayé Paul Ariès de ne manger que des lentilles par exemple. Vous expliquez que pour compenser 150 grammes de viande, il faut manger l'équivalent de 500 grammes de lentilles cuites. Et ça, vous dites, on n'est pas capable d'ingurgiter une telle quantité de végétaux à
non,
chaque repas.
Non, c'est pas parce qu'un végétal contient les protéines nécessaires que lorsqu'on va le cuire et qu'il va doubler ou tripler de volume, on va pouvoir l'absorber. Je voudrais simplement donner un exemple, parce que les végans nous disent toujours, pour produire un kilo de blé, il faut 100 litres d'eau, pour produire un kilo de bœuf faut 15 000 litres d'eau. Mais ils confondent des eaux très différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'eau réellement consommée par l'animal. Ça représente 3% du total.
Et l'eau verte.
Il y a ensuite l'eau nécessaire pour l'assainissement, encore 3%. Et 94% de l'eau, c'est l'eau de pluie que l'on trouve dans les prairies.
Ce qu'on appelle l'eau verte.
Mais oui, c'est l'eau verte.
Quand ils consomment de l'herbe, voilà, ils ingurgitent forcément de l'eau.
Voilà. Et je dirais qu'une prairie avec ses vaches, effectivement, il n'y a rien de mieux du point de vue de l'écologie.
Ouais, on va terminer par ça d'ailleurs dans un instant, puisque c'est ça que vous préconisez finalement, de retourner à l'agriculture paysanne. Josiane Letourneau est au Québec, elle veut réagir. Josiane.
Ben, je vais dans la même direction de mes collègues. Moi, j'attendais ce livre. En fait, j'attendais un livre qui mettrait en perspective de manière rigoureuse, intelligente et même scientifique l'antispécisme et le véganisme. Et je crois que c'est exactement ce que ce livre-là fait. Nous devons mettre à l'épreuve toute philosophie au-delà des idées reçues.
Claire Renaud pour la Suisse, vous voulez réagir?
Oui, moi aussi, j'ai été ravie de lire ce livre parce qu'il exprime beaucoup ce que j'arrivais pas à dire et le fond de ma pensée, en fait. Et c'est un sujet qui est très compliqué et que vous traitez avec beaucoup de clarté. Et puis, pour moi, c'est un appel à la tolérance, un appel contre la violence et un appel à changer nos habitudes alimentaires. Et c'est vrai que c'est un plaisir de le lire. Merci. Et puis, je vais aussi le vendre et argumenter avec.
Voilà, Ariès, vous expliquez que l'alternative, vous développez cela dans la dernière partie du livre, l'alternative est du côté d'une agriculture paysanne. Il faut retourner à l'agriculture paysanne et il ne faut pas oublier que la terre a besoin des animaux.
Bien sûr.
Pour pouvoir
survivre. Et je crois qu'il y a un mouvement qui est en train de se développer, qui est tout simplement pour développer des abattoirs sur place. Avec un slogan qui est qu'il faut que les animaux naissent, grandissent, et mort sur place. Et moi, j'appelle effectivement les défenseurs des animaux à rejoindre cette initiative qui est devenue légale en France depuis le mois de mai dernier, mais qui existe déjà dans plus d'une vingtaine de pays.
Merci beaucoup, Paul Ariès. Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser est parue chez Larousse. Merci, Paul.
Merci.
Vous avez été très clair. On part au centre Wallonie-Bruxelles à présent pour rendre hommage à Jacques-Stéphane Alexis, décédé en 1961 à l'âge de 39 ans. Écrivain précoce, il commence à l'âge de 18 ans. Neurologue et homme politique, il résistera au Duvalier jusqu'à son assassinat. Un hommage a été organisé la semaine dernière par l'Alliance française à Paris et par sa fille Florence Alexis, avec de grandes personnalités que vous allez retrouver dans cette séquence exclusive pour la librairie francophone. Bonsoir Florence Alexis.
Bonsoir.
On rend hommage à Jacques-Stéphane Alexis dans la librairie francophone cette semaine parce que c'est un grand auteur que vous célébrez ici à Paris au centre Wallonie-Bruxelles avec plein d'artistes, plein d'auteurs qui lui rendent hommage et c'est vrai que c'est un auteur qui a toujours été respecté, admiré.
C'est un peu le papa de tous les écrivains que vous recevez régulièrement. Pas le papa, je pense que comme il est mort à 39 ans, il ne sera jamais vraiment dans la figure du père, mais dans la mesure où je crois qu'on trouve trace de sa créativité dans tout ce que les écrivains aujourd'hui en Haïti produisent. Voilà, donc c'est une occasion pour montrer un peu la filiation, je dirais, entre les auteurs que vous célébrez régulièrement aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de vous écouter souvent. C'est vrai qu'Alexis, il est un peu, je dirais, au tournant de la littérature haïtienne, et notamment avec son dernier roman qui a été couronné par le prix Jean d'Ormesson cette année, L'espace d'un sillement, c'est un livre qui peut-être donne le signal d'un nouveau départ dans la littérature haïtienne, qui explore de nouveaux chemins, une nouvelle langue, une nouvelle manière de raconter une histoire. Et je pense que c'est ça qui fait que les jeunes peuvent se relier à lui.
On lui doit d'ailleurs une forme du réalisme merveilleux avec ce livre dont vous parlez, qui est un livre très sensuel puisque c'est une prostituée qui rencontre un mécanicien cubain et ils se découvrent comme ça par les cinq sens. Ils sont ensemble et petit à petit, on a des lectures magnifiques d'ailleurs de ce livre-là parce qu'on est dans la sensualité pure caribéenne.
Tout à fait. Des fois, Dany définit ça même comme un roman photo. Mais c'est vrai que il a dû partager son temps et malgré tout, il a produit quand même quelques chefs-d'œuvre au passage. Et
il faut lire Compère Général Soleil, qui est son premier roman qui a frôlé le Goncourt. Derrière vous, il y a Daniela Ferrière en pleine discussion et puis Louis-Philippe d'Alembert aussi. Attendez, on est sur l'estrade, on est sur scène avec un petit verre de rhum. Attendez, je vais récupérer mon verre de rhum. Louis-Philippe, il a déjà terminé. Comment ça va? Bonjour Louis-Philippe D'Alembert.
Bonjour.
Comment ça va Louis-Philippe?
Ça va.
Jacques-Stéphane Alexis, c'est une référence pour vous. On parlait il y a quelques mois, presque année maintenant, de René de Pestre avec vous. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'est aussi un monument de la littérature caribéenne.
Oui, c'est tout à fait un monument parce que tous les écrivains haïtiens, quelle que soit la génération, ont donné un coup de chapeau à Jacques-Stéphane Alexis. Par exemple, moi, très jeune, très tôt, 22 ans, jeune journaliste en Haïti, j'ai écrit sur tous les livres de Jacques-Stéphane Alexis. C'est vraiment un écrivain marquant. Et tout à l'heure, je vous ai entendu parler, mais vous avez oublié un autre aspect de Jacques-Stéphane Alexis, qui était médecin aussi.
Un grand neurologue pour enfants d'ailleurs. Il a travaillé à l'hôpital Necker à Paris pour les enfants malades et c'est un grand, grand médecin.
Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui débordait d'activité. Donc, homme politique, et écrivain, et puis médecin.
On va entendre la langue de Jacques-Stéphane Alexis avec, sur cette scène du Centre Wallonie-Bruxelles, un artiste qui est avec nous. C'est Gaël Faye. Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
Comment ça va Gaël?
Ça va très bien.
On adore votre titre avec Flavia Coelho.
Merci beaucoup.
Vraiment, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un titre magique. Félicitations, Gaël.
Merci.
Après Petit Pays, votre roman, vous avez eu le prix Goncourt des lycéens. Vous avez réussi à vous faire connaître d'abord dans la musique. Et après, vous avez eu l'honneur du monde littéraire. C'est assez rare, ça.
Oui, je crois que j'ai été très gâté par le destin avec ce premier roman. Puis ce roman continue de vivre aujourd'hui à l'international. Donc
En livre de poche, en plus.
En livre de poche. Et puis, il y a 35 traductions. Donc, ça me fait voyager dans le monde entier. C'est fabuleux.
Bon, vous êtes un passionné de littérature, passionné de Jacques-Stéphane Alexis. Vous allez nous dire d'ailleurs ce qu'il représente pour vous, juste après la lecture d'un extrait d'un texte que vous allez lire tout à l'heure, ici au Centre Wallonie-Bruxelles.
Tout à fait. Un beau matin, je me suis trouvé criant, courant, piaffant, pleurant, riant. Jamais les pailles du soleil ne furent plus belles allumettes de Bengale. J'étais né à la vie. Puis les jours et les nuits, pas du temps qui s'enfuit, déambulèrent. Un pas d'ombre, un pas de clarté. Ça fait des taches sur l'âme des léopards que nous sommes tous. Je suis resté tapis dans les chemins de la vie, faisant des cheveux aux poupées de mes rêves avec mes belles larmes. Toutes les ronces de la route ont griffé ma face noire. J'ai recherché le compagnonnage de mes pareils et je suis resté seul. Le léopard fut noble, en dépit de sa renommée. Chaque goutte de sang sera demain une fleur dans les jardins refleuris. Jamais il n'aurait supporté sa vie de léopard s'il avait menti une seconde à la nature dont il procède. La vérité n'est que la force qui fait germer le blé, éclore un œuf de passereau, frissonner les petites herbes et marcher les saisons. Le léopard est un cœur ouvert.
Magnifique lecture, merci Gaël Faye. Alors ce week-end, il y a la Nuit de la Lecture qui est organisée dans 20 pays francophones. C'est notre hommage à cette Nuit de la Lecture et à Jacques-Stéphane Alexis que vous venez de lire. Qu'est-ce que vous aimez chez cet auteur-là, vous ?
Je crois que ce que j'aime, c'est déjà la précision des phrases.
Musicales d'ailleurs, des phrases très musicales.
C'est des phrases musicales, sont des phrases poétiques et en même temps, ce sont des phrases réalistes. En plus, ce sont des livres qui se relisent parce que je trouve qu'on, un peu comme les chansons que l'on aime, on passe à côté de beaucoup de subtilités aux premières lectures. Ouais.
Merci beaucoup Gaël.
Merci.
Merci, on vous retrouvera prochainement, j'espère, dans la librairie francophone. On verra, on prépare des choses ensemble. Merci Gaël Faye.
Merci à vous.
Merci beaucoup. À côté de vous, il y a un académicien de l'Académie française, donc, et qui est juste ça, et qui est notre chroniqueur immortel de la librairie francophone. Vous l'entendez régulièrement, il anime même des émissions avec moi parfois. À votre avis, c'est qui ?
Je sais pas.
Non, vous connaissez plus votre nom, vous.
Non, je connais mon nom, mais je crois que je suis un peu ému par la situation.
Oui, c'est une belle introduction, vous avez vu,
hein? Oui.
C'est inédit, hein. Dany Laferrière.
Ah! Je me suis retrouvé. C'est incroyable la force, la puissance des noms.
Comment ça va, Dany?
Mais ça va bien.
Oui.
Oui, oui.
Jacques-Stéphane Alexis, vous m'en parlez depuis toujours.
Oui. Oui, il m'occupe depuis très longtemps l'esprit et le cœur. Je l'imagine comme un grand garçon dans une décapotable et qui lance des piécettes d'or comme ça il y a toujours quelque générosité chez lui. Il lance des phrases rutilantes, colorées, vibrantes, passionnées, sensuelles. Et il s'en fout, il continue sa route, il regarde pas en arrière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a perdu. Il est allé trop loin et on n'a pas su le suivre.
Proche d'Aragon, de Césaire, de Senghor, il va aller très loin effectivement parce qu'il est même reçu par Mao Tse-tung.
Et par beaucoup de paysans aussi.
Oui. Amis de Che Guevara.
Amis de Che Guevara.
C'est très varié tout ça.
C'est très varié. Et ce qui impressionne aussi dans la variété de ces relations, c'est quand on le lit, on a l'impression qu'il connaît le nom de chaque fleur, de chaque plante haïtienne, et qu'il se fait un devoir de connaître toutes les humeurs de la société haïtienne, les gens et comme le paysage. Dans son premier roman, la première phrase de son premier roman, Compère Général Soleil, il dit « La nuit respirait fortement ». C'est-à-dire, c'est ça un peu nous comme écrivains, on voudrait faire. On voudrait avoir écrit des choses que nous pourrions être fiers des années plus tard. On voudrait avoir l'expérience dès la première phrase pour dire 50 ans plus tard « Je savais déjà que toute l'œuvre était là ». Et dans la phrase « La nuit respirait fortement », se trouve toute l'œuvre de Jacques Séphène Alexis parce que il y a un salut à la nature, salut à la nuit qu'on va retrouver dans toute son œuvre. C'est une nuit qu'il connaît, il en entend le souffle, il en entend la respiration et c'est une nuit qu'il accompagne aussi jusqu'à la fin, je pense.
Formidable intervenant, Dany Laferrière. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Il est formidable, hein, Gaël Faye, il est subjugué.
Voilà, on prend une leçon d'histoire et d'amour de la littérature.
Merci Dany, on vous retrouvera bien sûr prochainement dans la librairie francophone puisque vous êtes chez vous.
Merci, ben oui, ça c'est sûr.
Merci beaucoup.
Et vous pouvez retrouver les livres de Jacques-Stéphane Alexis chez Gallimard et chez Zulma. Et nous parlerons encore de la culture haïtienne dans deux semaines. Nous serons pour la première fois à Haïti pour une séquence spéciale. Je vous en dis plus le week-end prochain.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le duo français Vilain Cœur.
Elle sera comment ? Elle sera comment la fin quand elle nous tombera dessus? De quoi on dira du bien? Est-ce qu'on aura tout vu? Elle sera comment ta main dans la mienne ou perdue? Est-ce qu'à la fin on se souvient du début? Elle sera comment la fin? Elle sera comment la fin? Elle sera comment la nuit? Si longue, si soudaine, est-ce qu'elle aura englouti toutes nos peines? Elle se prend pour qui la fin? À vouloir avaler nos vies, nos rêves et nos quotidiens, et puis à tout ce qu'on s'est promis. Elle sera comment la fin? 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 Chagrin, est-ce que ton cœur sera lourd quand le mien sera éteint? Elle sera comment la fin?
Vilain Cœur avec À la fin, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter, mais aussi sur Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet avec Fabrice Desmas, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci Muriel Barberie, à très bientôt. Paul Ariès, Isabelle Wery, au revoir. Merci aux auditeurs français, toujours aussi nombreux à suivre la librairie francophone en France et en Outre-mer. Grâce à eux, l'émission reste, selon les dernières mesures d'audience, le programme consacré aux livres le plus suivi en France, radio et télévision confondues. La semaine prochaine, la comédienne Audrey Dana, entre autres, et une séquence consacrée au festival d'Angoulême, avec de la BD donc, et Émile Bravo, Yann et André Julliard. Bonne semaine, bon week-end à tous.